Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il y a toutes sortes de criminels, mais parmi eux, il y a une catégorie qui m'a toujours fasciné. Ce sont ceux que tout accuse, mais qui nient. Qui nient d'un bout à l'autre sans jamais défaillir, entraînant en général dans leur sillage tout un tas de croyants. En voici un spécimen, Arnaud Thomas Chevalier, maître Arnaud Thomas Chevalier, notaire, qui est condamné pour avoir tué en 1980 un autre notaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 4 février 1980, à Cons-la-Grandville, petite bourgade de Meurthe-et-Moselle, maître Jean Flaudert, notaire, quitte son domicile sur les coups de 17h. « Chérie, j'ai rendez-vous avec une cliente. Amuserai. Je serai là pour dîner, hein. À tout à l'heure. » Muserai, c'est dans la Meuse, à environ une demi-heure de route. Mais à l'heure du dîner, maître Flaudert n'est toujours pas rentré. 19h, 20h, 21h, 22h. Madame Flaudert commence à se dire, il y a un problème. Alors elle appelle son fils, Jean-François, qui, lui-même, appelle aux alentours de minuit Denis Rotti, le premier clerc de l'étude de son père, 15 ans qu'il travaille avec lui. Dites-moi, Denis, ma mère nous a parlé d'un rendez-vous à Muserai. Ça vous dit quelque chose?
Oui, oui. Oui, j'en ai entendu parler, c'est un rendez-vous qui a été décidé hier après-midi.
Écoutez, Denis, je me dis qu'il a pu avoir, je sais pas moi, un accident ou faire un malaise.
Écoutez, Jean-François, si vous voulez, on y va tous les deux. On refait la route et on le cherche, quoi.
Et donc, en pleine nuit, Jean-François Flaudert récupère Denis Rotti chez lui et il se met en route pour Muserai. Arrivé sur place, il sillonne le village de long en large. Ils ne savent pas où il avait rendez-vous exactement. Et vers 2h du matin, il repère sa voiture, sa Renault 20, en bordure de la route, près d'un champ, à la sortie du village. La portière est ouverte, la voiture est vide, les clés sont sur le contact. Et là, à quoi 15 mètres, ils aperçoivent une forme allongée par terre, devant une maison en chantier. Maître Flaudert. Il court jusqu'à la ferme la plus proche. Il réveille les fermiers.
Vous voulez quoi?
Je vous en supplie. Téléphonez, il y a eu un accident grave. Quelqu'un va mourir. Il est peut-être déjà mort d'ailleurs. Le paysan appelle les gendarmes. Il accompagne le fils Flaudert et le clerc de notaire sur place. Il se penche sur le corps. Il pose la main comme ça, sur sa tête.
Il est mort, hein?
Et vous avez vu le trou, là? Le trou sur la joue, là. Il s'est fait flinguer, votre gars. Et ce qui est bizarre, vous avez remarqué, c'est que le corps est sec. Hein? Son costume est complètement sec. Alors qu'il mousine. Il mousine depuis le début de la soirée.
Mousiner, c'est du patois. Ça veut dire pleuvoir, mais une pluie fine. Un crachin, quoi. Et c'est vrai qu'il mousine ce soir. Et que le corps de maître Flaudert est totalement sec.
Les gendarmes arrivent sur place. Ils ne vont pas avoir trop le temps de s'intéresser à cette affaire, car dans la matinée, le procureur désigne la police judiciaire de Nancy pour mener l'enquête. Une enquête pour meurtre, car c'est un meurtre. Et évidemment, quand les flics de la PJ débarquent, ils commencent par fulminer contre les gendarmes. Classique.
Putain ! Tu crois qu'ils auraient installé un périmètre de sécurité, les cons ? Ils ont pollué la scène de crime avec leurs bagnoles et leurs gros pieds, mais c'est pas vrai! Quelle bande de nazes!
Le commissaire n'a pas totalement tort. les traces de pneus de la Renault 20 du notaire sont impossibles à distinguer de celles laissées par les 4L des gendarmes. À part ça, que dit le médecin légiste ?
Votre gars a pris plusieurs balles, hein, monsieur ?
6 balles. 6 balles en tout. Si vous voulez mon avis, c'est ce qu'on appelle une exécution. On a 3 balles tirées à bout portant et 3 balles tirées à bout touchant. 4 de ces balles ont été mortelles et 1 balle a traversé sa main, ce qui semble indiquer qu'il a voulu se protéger.
Le calibre, docteur ?
Oh, c'est le plus courant de tous. C'est du 22 long rifle. D'après le légiste, le notaire a été tué entre 22h et 2h du matin.
Ah ! Autre chose.
Avant de mourir sous les balles, votre notaire a dîné et il a bu 1 verre de vin.
À quelle heure ?
Environ 2 heures avant d'être tué. Avec qui a-t-il dîné ? Il faut donc tenter de reconstituer l'emploi du temps du notaire. Et pour l'instant, seule certitude, il est parti de chez lui à 5 heures. Pas mal d'habitants de Museret l'ont vu rouler dans le bourg vers 5h30, 6h. Mais ils ne sont pas très bavards, les villageois, au cas où le tueur serait encore dans le coin.
S'il vous plaît, je veux pas que mon nom apparaisse. Je veux bien vous dire ce que j'ai vu, mais je veux pas que mon nom apparaisse.
D'autres ont vu la voiture garée, là où on l'a retrouvée, sans son conducteur, à partir de 6h30. Un peu plus tard, l'institutrice, qui avait une réunion de parents d'élèves, l'a vue aussi.
Quand je suis passé à 20h30 pour aller à ma réunion, la voiture était là. Et quand j'en suis reparti à 23h, elle y était encore.
Et vous avez vu le corps ?
Le corps ? Ah non. Non, j'ai vu la voiture, oui. Mais pas le corps.
Pourtant, le corps était totalement visible depuis la route. Bon, avec tout ça, on va pas aller très loin. L'idée qui trotte dans la tête des policiers de la PJ, vous l'avez compris, c'est que le notaire n'a pas été tué là où on l'a retrouvé mort, puisque ça mousinait et que son costume était sec. Il a été tué avant et déposé là après. En revanche, le corps n'a pas été traîné parce que le légiste est formel, aucune griffure sur le cadavre. Et par ailleurs, le costume n'est pas déchiré ni froissé. Enfin, il n'y a aucune traînée sur le sol. Aucune. Alors, avec qui avait-il rendez-vous à 5 heures ? Dans une poche de son pardessus, on trouve un petit papier. Madame Erard, Museret, première maison à droite venant de Nouillon-Pont, et entre parenthèses, travaux. Le problème, c'est qu'à Museret, il y a plusieurs familles Erard. Les policiers vont les voir un par un.
Ah non ? Bon, c'est pas moi qui lui ai demandé de venir, non ? Non, non. Je le connais, hein, de réputation. Mais je l'ai pas appelé, ce notaire-là.
Donc, possiblement, le nom d'Erard a été utilisé comme appât pour le piéger. Qui aurait pu en vouloir à Maître Flaudert ? Quelqu'un de sa famille ? Rien ne conduit sur cette piste. Alors une femme, une maîtresse. Oh non. Non, le notaire était un bon père de famille. Vous savez qu'on a parfois des surprises en la matière, mais là, non. Alors peut-être un dossier. Un dossier qu'il suivait à son étude. Et donc, l'étude est perquisitionnée. Sacré boulot, hein. Ça carbure, un notaire de province. Maître Flaudert avait plus de 7000 dossiers en cours. 99% de dossiers très ordinaires. Et 2 dossiers plus litigieux. L'un concerne une société immobilière appelée les Myrtilles. Une vente de terrain contestée en raison d'irrégularités. Dans cette affaire, le notaire était convoqué devant la brigade financière. Le deuxième dossier litigieux est beaucoup plus intéressant. Il concerne la succession d'une mademoiselle Renaud. Quatre ans avant de mourir, cette vieille dame, propriétaire de plusieurs immeubles à Longwy, avait demandé à Maître Flaudert de lui rédiger un testament en faveur de l'une de ses locataires. Une femme issue d'une grande famille de la communauté des gens du voyage. Des gitans, les Clarennes. Flairant l'embrouille, le notaire avait refusé. Or, quatre ans plus tard, quand la vieille dame est morte, on a retrouvé chez elle un testament manuscrit qui désignait comme héritier la famille Clarenne. Quand il avait appris ça, Maître Flaudert avait fait connaître ses doutes sur la valeur de ce testament. Il avait fait clairement savoir que peut-être les Clarennes avaient abusé de la faiblesse de cette vieille dame. Et donc ça ouvre une piste. Les Clarennes. Est-ce que les Clarennes n'ont pas voulu le faire taire? Tous les membres de la famille Clarenne sont donc interpellés et placés en garde à vue. Et tous ont un alibi pour la nuit du meurtre. Mais en perquisitionnant chez eux, ils sont tous sédentarisés, les policiers tombent sur des armes, dont de nombreuses 22 longs rifles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait 7 armes. Les 7 armes sont envoyées au laboratoire d'expertise scientifique de Lyon. L'une de ces armes a-t-elle tué le notaire? Le résultat tombe en juillet.
C'est bon! C'est bon, on a l'arme du crime. C'est un revolver de marque Rome.
Un revolver saisi chez Maurice Clarenne. Un garçon de 24 ans qui est immédiatement placé en garde à vue avec sa femme, Marie-Hélène.
Je comprends pas. Cette arme-là, elle a jamais servi. Jamais. C'est juste un objet de décoration. Quand on s'est marié avec ma femme, on voulait faire une déco Far West à la maison. Ben voilà, ça collait bien, c'est tout.
Et Maurice Clarenne jure qu'il ne connaissait pas ce notaire, qu'il a juste entendu parler de lui dans les journaux. Il dit par ailleurs qu'il ne fréquente plus du tout sa propre famille, qu'il ne voit plus que sa grand-mère de temps en temps.
Et vous faisiez quoi, monsieur Clarenne, le 4 et 5 février dernier? Je crois bien qu'on était chez une tante. Mais je suis pas trop sûr de la date, hein.
N'empêche que Maurice et Marie-Hélène Clarenne sont déférés devant le juge d'instruction et ils sont mis en examen pour assassinat et écroués à la maison d'arrêt de Nancy. Elle est presque résolue, notre histoire. Là-dessus, les policiers découvrent que bien que sédentarisé, le duo avait une caravane. Et que cette caravane, ils l'ont vendue juste après le meurtre. Est-ce que ça ne serait pas dans la caravane qu'ils l'ont tué? La caravane est retrouvée. Elle est fouillée de fond en comble. Pas de tache de sang. Pas de trace de Maître Flaudert. Mais très peu de temps après, contre-expertise balistique, confiée au service de l'identité judiciaire de Paris. Et là, changement total de décor.
Bien. Alors pour nous, il est très peu probable que cette arme soit l'arme du crime. Hein. Très peu probable.
Allons bon. La balistique serait donc une science molle. Troisième expertise, confiée cette fois à des experts allemands de Wiesbaden.
Les traces de canon et les traces sur les balles, hein, sont de largeur différente. Hein. Ça n'est pas l'arme du crime. Hein. Désolé.
On a frôlé l'erreur judiciaire. Et Maurice et Marie-Hélène Clarenne sont relâchés et relaxés. Pour les 4 mois qu'ils ont passés en prison pour rien, on doit leur verser 120 000 francs d'indemnité. Et à partir de là, on n'a plus de piste. Et les années passent.
Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, huit ans, neuf ans. Jusqu'à ce qu'en 1989 éclate une autre affaire de notaire. Allons, oui, une certaine Béatrice Thierry vient se plaindre que son amant, notaire, l'a dépossédée de deux immeubles d'une valeur de 310 000 francs, sans lui verser un seul centime. Et il s'appelle comment, votre amant notaire ? Arnaud. Arnaud Thomas Chevalier. Maître Thomas Chevalier. Ça alors ? C'est le fils de l'ancien bâtonnier. Docteur en droit, professeur à la faculté de Nancy, mieux que ça. Sa femme est procureur. Cela dit, il se dit que c'est un coureur de jupons. Cette Béatrice Thierry, qui vient se plaindre de lui, a été sa maîtresse pendant 5 ans. Au début, vu que c'était un notable, quoi, je lui ai proposé de s'arranger à l'amiable. Mais il n'a pas voulu. Il m'a envoyé bouler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens porter plainte. Le commissaire de police en charge de l'enquête a à peine le temps de feuilleter le dossier que déjà, l'autre l'appelle.
Oui. Bonjour, commissaire. Maître Thomas Chevalier à l'appareil. Dites-moi, je crois savoir que vous enquêtez sur moi. Alors, je voulais vous dire que je suis entièrement disposé à répondre à vos questions et à m'expliquer de tout.
Maître Thomas Chevalier, vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas ? Mais néanmoins, voyons-nous, à quelle heure ça vous arrange ?
18h ce soir ? Ça vous va ?
À 18h pile, maître Arnaud Thomas Chevalier se présente au commissariat de Longwy. Il a l'air parfaitement serein, genre... Je n'ai rien à craindre. Pour le mettre en confiance, les flics lui servent le grand jeu. Ils autorisent sa femme à lui porter un petit frichti pendant la garde à vue. Et pour lui, ils sortent la nappe blanche et la porcelaine. Et l'autre est en confiance, alors il parle. Et assez vite, il apparaît que... c'est un escroc. Un type qui banane la quasi-totalité des clients de son étude. Un délinquant financier qui sévit depuis au moins 10 ans. Et qui ne trouve pour se justifier que des excuses moisies. Je pense qu'il s'agit d'une erreur comptable. Rien de plus. Bien sûr. Sur le plan personnel, on apprend qu'il vient de se séparer de sa femme, mais que ça se passe bien. Et d'ailleurs, il dit qu'il a présenté sa nouvelle fiancée à sa fille et à son ex-femme, et que ça s'est super bien passé. On est content pour lui. Sauf que c'est pas le sujet. Car à la fin de la garde à vue, maître Thomas Chevalier est mis en examen pour faux en écriture publique et abus de blanc-seing. Et il est écroué. Direction la prison. Et donc vers 9h du soir, entouré de policiers, le notaire traverse le hall du tribunal. Et sa fiancée est là, sa nouvelle fiancée. Et les policiers, bon prince, les laissent un instant tous les deux. Alors ils s'embrassent, et ils se parlent à voix basse, un petit moment. Et Arnaud Thomas Chevalier se tourne alors vers le procureur. Monsieur le procureur, je peux lui donner la clé de ma voiture ? Bien entendu, bien entendu. Et il lui remet la clé. Fin des embrassades. Quand la fiancée rentre chez elle, elle a la clé. Mais pas que. Elle a surtout un lourd secret sur la conscience. Ce qu'il lui a dit à l'oreille. Elle ne peut pas garder ça pour elle. Et qui appeler ? Elle appelle la femme d'Arnaud Thomas Chevalier, celle dont il est en train de divorcer, qui, je vous rappelle, est procureur de la République. Allô ? Nadine ? Bonjour Nadine. Écoutez, voilà. Arnaud m'a parlé tout à l'heure, dans le hall du tribunal avant de partir pour la prison.
Il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Que ça remontait à 10 ans. Il m'a dit un nom, Flaudert. Flaudert, oui, c'est ça, je crois. Et du coup, ben, il m'a donné la clé de son cabinet. Il m'a dit d'aller y enlever son arme. L'arme avec laquelle il aurait tué. Elle est cachée dans un cartable en cuir, à son étude. Et il m'a dit de faire ça avant que son étude soit perquisitionnée. Et moi, Nadine, ben, j'avoue que je sais pas quoi faire, quoi.
Et là, que fait sa femme, qui est procureure de la République et en instance de divorce? Le lendemain matin, elle appelle son confrère, procureur de Briey, et elle lui balance tout. Le nom de Flaudert, le cartable en cuir, et dans la foulée, le procureur de Briey saisit la brigade criminelle et lui demande d'aller perquisitionner l'étude de Maître Thomas Chevalier. Évidemment, les flics trouvent le cartable dans le bureau au pied d'un fauteuil. Et dans le cartable, un revolver Arminius de calibre, 22 longs rifles, chargé, plus une boîte d'une centaine de munitions et des documents, des blancs-seings et des testaments partiellement rédigés.
« Cette arme vous appartient, monsieur ?»«
Oui. Oui, c'est la mienne. »«
Cette arme, monsieur, a-t-elle servi à tuer ?»
C'est ce que vous allez penser, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, je dirais, à vous de prouver que c'est moi.
Et le lendemain, le nom de Flaudert refait la une des journaux régionaux. Un notaire aurait tué un autre notaire il y a 9 ans. Quelle histoire! Évidemment, le revolver Arminius est envoyé au labo de balistique. Je sais que dans cette histoire, on a des raisons de douter de l'art de la balistique. N'empêche que d'après le labo, c'est l'arme du crime. Et il a dit prouvez-le, eh bien la voilà, la preuve. Ajoutez à ça les confidences de sa fiancée.
Elle ne ment pas. Je sais que je lui ai dit ça. Je le reconnais. Mais je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai parlé de Flaudert parce que c'est le premier nom qui m'est passé par la tête. Mais je n'ai pas tué Maître Flaudert. Si vous pensez que c'est moi, je vous répète, il va falloir le prouver. Vous pensez bien, je suis docteur en droit. Je connais la procédure pénale. J'ai fait une thèse, ma thèse sur l'instruction. Alors pensez donc, je vais pas me laisser faire. Hein.
Il est énervant, énervant. Les flics en ont par-dessus la tête de lui. Ce côté obséquieux, donneur de leçons, sûr de lui, une vraie tête à claque. Pour se défendre, Arnaud Thomas Chevalier enrôle une jeune avocate qui est une de ses anciennes étudiantes, brillante, très brillante, qui deviendra célèbre en tant qu'avocate de Francis Holmes, maître Liliane Glock. Dans cette affaire à ce stade, il nous manque un mobile. Pourquoi est-ce que Thomas Chevalier aurait tué Flaudert? On pense naturellement à une rivalité amoureuse, mais non. Je vous le répète, Flaudert était marié. Au moment de son meurtre, en 1980, on a cherché des maîtresses, on n'en a pas trouvé. Flaudert, c'était papa dans maman, point. En revanche, maintenant que vous connaissez un peu Thomas Chevalier, vous avez compris que c'est quelqu'un qui aime le fric. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une embrouille financière entre eux? On va donc gratter de ce côté-là. Et on trouve une piste. Au moment du meurtre, en 1980, les deux études, celle de Maître Flaudert et celle de Maître Thomas Chevalier, sont concurrentes. Et Flaudert fait un joli coup, un très joli coup. Il est sur le point de s'associer avec Maître Cochril, juste avant d'être tué. Et pourquoi est-ce que c'est un joli coup? Parce que la famille Cochril règne à l'époque, et depuis 2 siècles, sur l'industrie sidérurgique du coin, les hauts fourneaux de la région. Or, en 1980, la sidérurgie bat de l'aile, les Coquerel s'apprêtent à mettre en vente la totalité de leur patrimoine immobilier. Alors s'associer avec un Coquerel pour un notaire, c'est comme mettre la main sur la poule aux œufs d'or. Flaudert a failli être très riche. Failli, puisqu'il est mort. Puisqu'il est mort avant de s'associer. Et qui a récupéré le marché après sa mort ? Arnaud Thomas Chevalier. Ça nous fait un sacré mobile, ça. Ça nous fait même un mobile en or. Sauf que, comme il le dit lui-même, prouvez-le ! Prouvez-le ! En attendant, le jour du meurtre, Arnaud Thomas Chevalier a un alibi.
Le meurtre, c'était un lundi ? Oh ben, tous les lundis, je donnais des cours à la faculté de droit de Nancy. C'est bien la preuve que c'est pas moi.
On vérifie. Une secrétaire de la fac a gardé tous les emplois du temps de 1980. Coup de chance. Et c'est ballot. À l'époque, c'est le mardi et le jeudi que maître Thomas Chevalier donnait ses cours à la fac. Jamais le lundi. Il n'a plus d'alibi. En revanche, il a un nouvel argument pour prouver son innocence.
À l'époque, j'avais des problèmes de santé. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, 5 jours après le meurtre de Flaudert, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Et dans les jours qui précédaient, je me souviens, j'avais de ces céphalées absolument terribles, avec des maux de tête, etc. J'aurais été incapable, vous m'entendez ? Incapable de commettre un meurtre dans cet état. Incapable, je vous le dis.
Mouais. On demande leur avis à des experts. Et ils disent que son état de santé a pu se dégrader, effectivement, dans les 15 jours qui ont précédé la rupture d'anévrisme. Mais ils disent aussi que ça ne l'empêchait pas de commettre un meurtre. Absolument pas. Et donc ça aussi, ça ne tient pas. En mai 1991, une contre-expertise balistique est réalisée à Toulouse. Et elle confirme que le revolver de Thomas Chevalier est bien l'arme du crime. Mais il a encore une explication.
Moi, je me dis qu'on a très bien pu m'emprunter le revolver. À l'époque, j'avais une maîtresse. Elle habitait dans le même immeuble que les Claren.
Les Claren ! Le retour ! Les gitans ! Il veut les faire revenir dans la valse. En avril 1993, une reconstitution est organisée par le juge d'instruction. Maître Thomas Chevalier refuse de refaire les gestes, puisqu'il est innocent. En octobre, l'instruction est terminée. Il est renvoyé devant la cour d'assises, pour meurtre. Son procès s'ouvre le 20 mars 1995 à Bar-le-Duc. Et d'entrée, le président commet une maladresse.
Nous avons ici Monsieur Thomas Chevalier, ex-notaire.
Oh là là, le crime de lèse-majesté.
Pas ex-notaire, monsieur le président. Je tiens à vous faire remarquer que je n'ai pas été destitué. Je suis toujours notaire.
Qu'est-ce qu'il est énervant ! Audience après audience, il continue de nier. Il assume ce qu'il a dit à sa fiancée. Il reconnaît qu'il avait ce revolver. Et puis c'est tout. Pour le défendre, son avocate, maître Liliane Glock, tente de remettre en scène les gitans, les Claren. Et d'ailleurs, on les fait venir à la barre. Mais ils n'ont rien à voir avec cette histoire, même si, à un moment, le commissaire de la PJ vient raconter qu'à son avis, selon son pifomètre, la manière de tuer était celle d'un clan. Et donc, quand on entend clan, on entend clan de gitans. Sa fiancée de l'époque, celle à qui il a fait ses confidences, est bien sûr appelée à témoigner. Il la regarde.
Je t'en veux pas, tu sais. Vas-y. Vas-y. De toute façon, on est au-dessus de tout ça. Hein? Si tu dois dire quelque chose,
Dis la vérité.
Qu'est-ce qu'il est énervant? Et elle? Elle raconte ce qu'il lui a dit. Comment il le lui a dit? Elle dit que quand il a prononcé le nom de Flaudert, il n'a pas hésité une seule seconde. C'est accablant. Maître Glock lui demande.
Pour vous, madame, est-ce qu'il est l'auteur de l'assassinat? Ah non? Ah non, il aurait pas pu faire ça. C'est un pleutre, vous savez. C'est un trouillard, Arnaud. C'est un faible, quoi.
Et toutes les maîtresses qui défilent à la barre disent la même chose. Et sa femme, procureur, aussi.
Ah non, Arnaud est absolument incapable de tuer quelqu'un. Incapable.
Tous les témoins disent qu'il est truqueur, voleur, obsédé par l'argent, mais incapable de tuer. Bon. Au terme de 7 jours de procès, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Quand il entend ça, Arnaud Thomas Chevalier s'effondre en larmes. Les délibérations durent 2h30. Et à la fin, il est reconnu coupable. Et il est condamné à 18 ans de prison. Et 2 ans plus tard, pour toutes ces embrouilles de notaire, il prend 14 ans de plus. En France, vous le savez, les peines de prison ne s'ajoutent pas les unes aux autres, elles se confondent. Et donc Arnaud Thomas Chevalier a passé au total 13 années en prison. Dès sa sortie, il a pris un nouvel avocat, maître Jean-Marc Florent, célèbre pour avoir défendu Patrick Dils, pour tenter d'obtenir une révision de sa condamnation. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il produise des éléments nouveaux. Et on n'en a pas trouvé. Là-dessus, il est parti en cavale, figurez-vous. En Afrique, au Cameroun. Et pourquoi donc? Oh, une de ces embrouilles dont il est spécialiste. À sa sortie de prison, il s'est remarié avec une jeunette de 26 ans. Une pauvre fille qui est morte juste après. Non sans avoir souscrit, au bénéfice de son chéri, 3 assurances d'essai qu'il a touchées pour 2 d'entre elles. Et le temps que ces assurances se rendent compte à qui elles avaient versé l'argent, il était déjà dans l'avion pour Douala, au Cameroun. Ça l'a dispensé de purger 4 années de prison de plus pour escroquerie à assurance. Et depuis, il est mort. Il est mort au Cameroun. Et mon histoire, forcément, s'arrête là.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.